est parti pour le 18-20 de France Inter. Ravi de vous retrouver et bienvenue sur la planète et sa banlieue. Comme à chaque soir, le journal d'abord présenté par Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence forcément sur le parvis de Notre-Dame.
Elle avait résisté plus de 850 ans, Notre-Dame en partie détruite par un incendie. Émotion et compassion, des entreprises, des grandes fortunes annoncent des dons de centaines de millions d'euros. L'État lance une souscription nationale. Les collectivités se joignent à cette collecte à la hauteur de l'édifice. L'argent ne risque pas de manquer donc, mais combien d'années faudra-t-il pour restaurer ce bijou gothique ? D'autant que la bataille des experts a commencé. Quelle méthode ? Ancestrale ou moderne ? Coûteuse ou écologique ? Les débats s'annoncent nourris. Nous irons sur le parvis où l'émotion n'a pas faibli depuis 24 heures. Et puis nous décrypterons ce moment politique inédit. Le président Macron s'apprêtait à rendre public ses conclusions du grand débat quand l'incendie a pris. Tout l'agenda est à réécrire. Dans l'actualité aussi ce soir, la perpétuité requise contre le frère de Mohamed Merah. Et du soleil demain, la météo à la fin de ce journal avec Sébastien Léas.
Et ensuite Amélie pour le 18-20, on va prendre les choses dans l'autre sens puisque nous aussi au téléphone sonne à partir de 19h20. On va regarder comment on reconstruit un monument aussi vieux, avec quoi la charpente, une pièce de la voûte. Qu'est-ce qu'on perd une partie de l'histoire du monument quand tout n'est plus exactement d'époque? Qu'est-ce qu'on peut encore perdre d'ailleurs à cause de l'eau par exemple? Combien de temps pour remettre tout ça en état? Avec quel argent? Vous l'avez en partie évoqué, on verra ça ensemble au 01 45 24 7000. Juste avant 18h15, un jour dans le monde, nous verrons notamment que la cathédrale à l'étranger dit des choses de nous, c'est ce que nous racontera Jean-Marc Four. Et puis La Gourmandise, c'est avec David Lodge. Ce soir, on parle de son dernier livre, le tome 2 de son autobiographie. Un peu de Brexit aussi, et d'Angleterre. C'est bien plus qu'un édifice religieux, c'est un symbole de la France et de notre patrimoine.
Et de notre culture. Il a fallu plus de 2 siècles pour construire ce joyau gothique. Hier, en quelques heures, Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. Ce soir, l'incendie est éteint. Les experts sur place, épreuve de l'attachement à cette dame de pierre. Les messages de soutien ont afflué toute la journée. Les messages et les gros chèques. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Les dégâts sont considérables, difficiles de les chiffrer.
Ouais, très difficile. Hein.
Et cet élan inédit, toutes les grandes fortunes, les grandes entreprises veulent participer à la reconstruction.
Oui, Total, 100 millions d'euros. Qui dit mieux, L'Oréal et les Bettencourt, 200 millions. Pareil du côté d'LVMH, le groupe de luxe détenu par Bernard Arnault, le milliardaire. Ce soir, c'est 200 millions également que la famille Arnault est prête à mettre sur la table. Le fils Antoine, qui dirige la communication d'LVMH, parle d'une démarche tout à fait naturelle dans des circonstances aussi exceptionnelles.
Quand on dirige une entreprise qui réussit en France, eh bien, quand une catastrophe comme celle-là a lieu, il faut savoir être exemplaire et faire un geste fort.
Un effort consenti aujourd'hui aussi par François Pinault et François-Henri Pinault et son groupe Kering. Là aussi, 100 millions d'euros vont sortir des caisses pour aider Notre-Dame.
Alors on peut y voir de la philanthropie, Maxime. C'est aussi une affaire pas si coûteuse que ça pour ces très riches mécènes.
Ouais, il y a comme qui dirait un petit tour de passe-passe puisque les entreprises depuis 2003 peuvent déduire de leurs impôts sur les sociétés 60% de leurs dépenses de mécénat. Un système de défiscalisation avantageux qui pourrait, c'est là le problème, se retourner contre les Français. Louis-Valentin Lopez a joint tout à l'heure François Debiès, président d'Admical, une association qui promeut le mécénat d'entreprise.
Les Français vont payer sous différentes formes, hein, parce que la défiscalisation, ce sont des recettes qui viennent en moins pour l'État, hein, des impôts qui viennent en moins, mais qui vont s'investir dans ce travail de reconstruction.
Ce soir, le député Les Républicains, Gilles Carrez, spécialiste des questions fiscales, s'inquiète déjà. Si on peut se réjouir aujourd'hui, il y aura certainement demain, pour le prochain budget, des sommes en plus à trouver.
Merci Maxime Dev. C'est pour ne pas laisser aux mécènes privés tous les lauriers. Emmanuel Macron, dès hier soir, lançait une souscription nationale pour permettre à chacun d'apporter sa pierre. Un grand nombre de cagnoles fleurissent aussi sur les sites de collecte, pas toujours fiables. On vous aide à faire le tri sur notre site franceinter.fr. De l'argent venu aussi des collectivités, 50 millions d'euros de la ville de Paris, 10 millions débloqués par la région Île-de-France. Les communes de Rennes, Nantes, Bordeaux ou Toulouse suivent le pas, tout comme certaines régions. Car nous avons été nombreux hier, pris d'un vertige. Si les moyens financiers sont là, on le voit, combien de temps faudra-t-il pour reconstruire l'édifice? 10 à 15 ans, dit ce soir la Fédération du bâtiment. L'ossature semble avoir tenu le choc, la structure est sauvée. Les 2 beffrois sur l'entrée principale n'ont quasiment pas de stigmates, même pas noircis. C'est à l'arrière que le pire s'est produit et à l'intérieur. Caroline Pommès a rencontré en Isère des maîtres artisans sous le choc et très concernés par les expertises.
Il n'a pas eu la chance de travailler sur les rosaces de Notre-Dame, mais Christophe Berthier, maître verrier de Grenoble, connaît bien les vitraux de la cathédrale.
Toutes les fenêtres de la haute nef ont peut-être pu souffrir énormément. De magnifiques vitraux du XIIe, XIIIe siècle qui sont dans le cœur de Notre-Dame. Là, j'en ai aucune idée.
Aucune idée, c'est le suspense pour tous ces amoureux du patrimoine.
L'incendie d'église est très rare. On voit donc ici ce petit vitrail, donc. Le verre, lui, a subi un choc thermique et il a cassé. Donc il est envisageable que sur les vitraux de Notre-Dame, nous ayons ce type de pathologie. À partir du moment où on va dépasser les 250-300 degrés, on craint ce qu'on appelle le choc thermique. Les pompiers arrivent, arrosent. Le risque, c'est de casser, de faire éclater les verres.
Éclater le verre, fissurer la pierre, l'effriter.
La chaleur, en fait, ça dégage tellement de puissance et la pierre transmet cette énergie et du coup, elle finit par casser, quoi.
Ghislain Bouchard est tailleur de pierre et formateur au CFA Montalieu-Versieux, dans le Nord-Isère.
J'ai peur, ouais, parce qu'il va y avoir des changements de température, ça va redescendre. Il y a les joints qui sont faits à la chaux la plupart du temps. Le mélange avec l'eau, ça dissout, en fait, le mortier. Et la pierre elle-même s'est fragilisée. Elle est certainement prête à finir en poudre.
Voilà, les maîtres artisans sont inquiets, tout est lié dans l'architecture gothique, la charpente, la pierre, le verre. Si un élément faiblit, le reste de la structure est mis en péril. Mais les autorités l'assurent, la cathédrale tient bon.
Caroline Pommès, alors maintenant, comment reconstruire cette cathédrale? Comment remplacer les magnifiques charpentes en chêne du chœur et de la nef datant du XIIe siècle? Elles sont perdues pour toujours. Faut-il reprendre le travail exactement à la manière des bâtisseurs du Moyen-Âge, avec ses savoir-faire ancestraux, ou faut-il préférer des méthodes plus modernes, plus rapides et plus écologiques aussi? Le débat a déjà commencé entre architectes, comme nous le raconte Bernard Toulier, le conservateur général honoraire du patrimoine.
Est-ce qu'on refait à l'identique? Et de quel identique s'agit-il? Se pose la question de la charpente. Est-ce qu'on va la refaire avec les mêmes assemblages? Bien sûr, pas avec les mêmes bois, parce qu'on ne pourra pas trouver les bois de cette date-là, même du siècle dernier. Mais au moins, le savoir-faire, c'est un peu une question plus philosophique qu'une question technique. Et après, par exemple, des écologistes pourraient dire, mais est-ce qu'on a besoin d'autant de bois? Est-ce qu'aujourd'hui, avec moitié moins de bois, on ne pourrait pas avoir une sécurité suffisante pour faire la toiture? En quoi consiste, on va dire, l'identité de notre cathédrale? Il y aura plusieurs projets qui seront présentés. Est-ce qu'avec la matière du XXe siècle, est-ce qu'on peut refaire totalement l'identique? Ben non. Et donc jusqu'où refaire, mais avec la technique d'aujourd'hui?
Le conservateur général honoraire du patrimoine Bernard Toulil répondait à Claire Chaudière. Du côté de l'enquête, c'est l'accident qui semble privilégié. Le procureur de la République de Paris précise que rien ne va dans le sens d'un acte volontaire. 5 entreprises intervenaient sur le site. Les auditions des ouvriers ont débuté. Ils étaient une quinzaine hier sur le chantier.
En tout cas, Amélie, 24 heures après le début de cet incendie tragique, l'émotion n'a pas quitté le parvis de Notre-Dame.
Car à Paris, il y a la Dame de Fer et la Dame de Pierre, la Tour Eiffel et Notre-Dame. Paris vit aujourd'hui son chemin de croix, la passion de Notre-Dame en cette semaine sainte. Ce n'est pas une crucifixion qu'elle endure, c'est un éventrement ressenti dans les tripes de chaque Parisien, de chaque visiteur, de chaque touriste. Nathalie, catholique pratiquante, a fait le voyage de Morlaix pour venir prier devant Notre-Dame. Elle le raconte à notre reporter Delphine Evenou.
Moi, je ne suis pas parisienne, je suis bretonne. J'ai vu les infos, comme tout le monde hier, à la télé. J'ai passé ma soirée à pleurer. J'ai pris le train ce matin pour venir passer la journée pour revoir Notre-Dame. Une fois de plus, pas comme d'habitude, mais il fallait vraiment que je vienne. J'avais pas le choix. En fait, j'avais juste pas le choix. Ma place était ici aujourd'hui. Ça m'a bouleversée. J'avais l'impression de perdre un membre de ma famille, en fait. J'ai vécu beaucoup de choses intenses dans cette cathédrale. J'ai beaucoup prié. J'ai vécu des choses magnifiques aussi. C'est un endroit qui est très spirituel, en fait. Les gens, qu'ils soient croyants ou pas, quand ils rentrent, sont imprégnés de cette spiritualité-là. Et j'ai observé plusieurs fois. Ils changent de tête, ils changent de visage, leur expression n'est plus la même quand ils sont à l'intérieur que quand ils sont dehors, ils se bousculent, ils veulent prendre des photos. Qu'à l'intérieur, tout est simple et beau et grandiose.
Voilà, et l'an dernier, 14 millions de visiteurs sont passés à Notre-Dame. Tristesse et compassion de ces touristes venus parfois de très loin, à l'étranger. La reine Elisabeth II et jusqu'à Vladimir Poutine ont témoigné. Vladimir Poutine, pour qui c'est un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale. Un trésor exceptionnel de l'humanité, ajoute le président chinois Xi Jinping. Pensée émue au peuple français tout entier, écrit Mohamed VI, le roi du Maroc. Et en France, quelle réaction de la la classe politique. Plusieurs partis, dont La République En Marche et le Rassemblement National, annoncent la suspension de leur campagne pour les élections européennes. Yael Gauze, bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Alors c'est un moment politique assez inédit, d'autant plus inédit que hier, au moment où le feu se déclare à Notre-Dame, le président Emmanuel Macron a enregistré son allocution, sa réponse aux Gilets jaunes, ses conclusions à 3 mois de grand débat. Diffusion prévue à 20h. Yael, là le discours, il est mis à la poubelle une heure avant.
Oui, un concours de malchance qui restera dans les annales de la communication politique. On a déjà raconté cette scène hier soir, mais il est presque 19h30, le président termine son enregistrement et découvre la catastrophe. Aussitôt, il annule la diffusion, mais le texte a fuité, le script existe, envoyé à certaines rédactions, un texte dont l'Élysée considère ce soir qu'il n'engage pas le président. No comment, la seule priorité du président, c'est la mobilisation pour sauver Notre-Dame.
Mais donc ce soir, on sait ce qu'il y avait dans ce texte.
Hein. Oui, un texte à prendre avec des pincettes, puisque seul le prononcé fait foi et que justement, il n'y a pas eu de prononcé. Ça commence par le volet institution, moins d'élus au Parlement, mais plus de proportionnel. Un RIC aussi, mais au niveau local, ce référendum sur certains sujets. Tout ça dans une réforme constitutionnelle qui arrivera au Parlement cet été. Enfin, dès le mois prochain, 300 citoyens plancheront sur la transition écologique, 300 citoyens tirés au sort. Les territoires ensuite, nouvel acte de décentralisation, plus de fonctionnaires sur le terrain et un moratoire sur les fermetures d'écoles et d'hôpitaux. Les impôts ensuite, la question de l'ISF transformée en IFI, ça ne bouge pas, sauf si l'évaluation prévue début 2020 révèle son inefficacité. Emmanuel Macron s'engage en revanche à baisser les impôts pour les classes moyennes via la suppression de certaines niches fiscales. Injustice fiscale, injustice sociale, le président promet du CP au CE1 des classes de 24 élèves maximum d'ici à 2022. Et puis sa mesure la plus forte, suppression de l'ENA. Pour le pouvoir d'achat, réindexation sur l'inflation pour les retraités jusqu'à 2000 euros. Un État qui garantit les impayés de pensions alimentaires pour les mères isolées. Et là, c'est la limite de l'exercice, il manque un chiffrage. À part l'ENA, on cherche les annonces waouh. Emmanuel Macron devait s'expliquer demain en conférence de presse, mais tout est reporté et tout peut encore changer, prévient l'Élysée.
Merci beaucoup Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Et avant de refermer cette page sur Notre-Dame, sachez que France Inter bouleverse encore ses programmes ce soir. L'heure bleue spéciale de 20h à 21h, Laura Adler reçoit plusieurs invités, dont Wim Wenders.
Et nous, on sera bien sûr là pour le téléphone sonne tout à l'heure à partir de 19h20. En attendant, et à 18h 12, Amélie, on en vient à la suite de l'actualité de ce soir avec le procès d'Abdelkader Merah.
Et la peine maximale demandée contre le frère du terroriste de Toulouse. L'accusation requiert la réclusion criminelle à perpétuité contre Abdelkader Merah. Pour le parquet, il a été le complice des 7 assassinats commis par Mohamed Merah en mars 2012. Corinne Audouin, vous suivez le procès pour nous. Bonsoir.
Bonsoir Amélie.
Le réquisitoire a donc touché les familles des victimes.
Oui, il y a des sourires sur les visages des familles après plus de 4 heures de réquisition à 2 voix. Rémi Crosson du Cormier commence par citer le nom des victimes. Le plus jeune, le petit Gabriel, n'a vécu que 1253 jours, rappelle-t-il. Le deuxième avocat général, Frédéric Bernardo, descendu de son estrade, se tourne vers les familles pour dire sa compassion. Quel spectacle lance l'avocat d'Abdelkader Merah, Éric Dupond-Moretti. Mais au-delà de l'émotion, les avocats généraux reviennent longuement sur les éléments permettant de condamner, selon eux, Abdelkader Merah pour complicité. La connexion du 4 mars sur la petite annonce d'Imadi Benziaten, la première victime. J'ai l'intime conviction que c'est Abdelkader Merah, dit Frédéric Bernardo. Le vol du scooter par les deux frères le 6 mars, prémédité selon l'accusation, qui insiste sur la notion de complicité par provocation, par l'influence d'Abdelkader Merah, le mentor, sur son frère plus impulsif. Non, Abdelkader Merah n'est pas dans le box parce que son frère est mort. Il n'est pas l'auteur principal, mais le coupable, mais le complice, pardon, résume l'accusation, avant de réclamer en toute logique la perpétuité pour que le nom de Merah, brandi comme une fierté par les candidats au djihad, soit associé à une peine lourde, justifie l'avocat général.
Merci Corinne Audouin, en direct du Palais de Justice de Paris. À l'étranger, en bref, une nouvelle victoire pour les manifestants en Algérie. Le président du Conseil constitutionnel, Tayeb Belaïd, a présenté sa démission. Fidèle de l'ex-président Bouteflika, il était l'une des cibles des contestataires. Le Conseil constitutionnel va jouer un rôle clé. Dans les mois à venir, il doit valider les candidatures à la présidentielle prévue le 4 juillet prochain. Le président Sissi en Égypte, lui, compte bien rester au pouvoir au moins jusqu'en 2030. Le Parlement doit voter des amendements à la Constitution. Aujourd'hui, elle limite à 2 mandats de 4 ans la présidence du pays. Et puis cette mauvaise nouvelle, enfin, pour notre pouvoir d'achat, les prix des médicaments sans ordonnance se sont envolés. Conclusion de l'enquête de l'association de consommateurs Famille Rurale, 10 ans après l'ouverture de vente vente en accès libre de ces médicaments. Le Nurofen a par exemple bondi de 25% depuis 2010 et les Maalox pour les maux d'estomac de 12%. Et ça donne mal au ventre.
Allez, merci beaucoup Amélie Perrier pour le journal. On se retrouve tout à l'heure, Amélie, dans Un jour dans le monde.
Oui, sous les radars ce soir, on entendra des hommages étonnants à Notre-Dame, de la nouvelle coqueluche des démocrates américains Pete Buttigieg au cardinal de Dakar, en passant par les fans d'un patineur artistique japonais, on vous dira pourquoi. Et puis on ira à Saint-Louis, Missouri, comme une tragique coïncidence. Là aussi, la cathédrale vient de subir de gros dégâts.
À tout à l'heure. Donc Amélie, il sera autour de 18h37, hein, puisqu'on parle de cette cathédrale. On verra aussi avec Jean Marfour ce qu'elle dit de nous à l'étranger, comment on en parle chacun avec des yeux particuliers en fonction aussi de ce qu'ils veulent voir de la France. La gourmandise de 18h15 dans Un jour dans le monde, rien à voir. Ce sera David Lodge, l'auteur anglais qui sort le deuxième volume de son autobiographie. Ça sort demain, ça s'appelle La chance de l'écrivain, c'est paru chez Rivage. Et notre chance à nous, c'est de lui parler de l'Angleterre aussi, bien sûr, et du Brexit. Et puis 19h20, le téléphone sonne, vous le savez, c'est à vous de se poser des questions sur la reconstruction d'un bâtiment comme Notre-Dame, sur les techniques qui sont les nôtres aujourd'hui, le temps que ça va durer, l'argent que ça va coûter. Vous avez vu comme moi, et on en parlait à l'instant, les grandes familles surenchérir. On parle de tout ça ensemble au 01 45 24 7000.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
Et Sébastien Léas, encore des nuages sur le nord et sur le nord-est au programme de demain.
Oui, la perturbation pluvieuse qui donne encore des pluies sur le nord de la Seine et les régions de l'Est actuellement va tarder à s'évacuer demain. Maintenant, un temps gris en début de journée entre les Hauts-de-France et l'Alsace. Quelques gouttes seront même possibles près des frontières demain matin, mais au fil des heures, les éclaircies vont revenir pour s'imposer. Le nord-Pas-de-Calais gardera tout de même un ciel plus nuageux. Sur le reste du pays, la journée s'annonce calme et plutôt ensoleillée. Entre le Bas-Languedoc, le Roussillon et la région toulousaine et du Val-de-Seine au Val-de-Saône, des grisailles matinales retarderont les belles éclaircies. Sur les régions de l'Ouest, c'est un voile nuageux qui atténuera un peu le soleil, notamment entre la Bretagne, la Normandie et le Poitou.
Et des fortes hausses là pour le coup de température.
Oui, après cette petite pause, la douceur va s'installer à nouveau sur le pays jusqu'en début de semaine prochaine. Demain après-midi, on attend 16 degrés à Lille, 18 degrés à Caen, Strasbourg et Perpignan, 19 degrés pour Paris, Marseille et Bastia, 20 degrés à Brest, Tours et Aurillac, 22 degrés à Lyon, 24 degrés à Limoges et à Bordeaux. On ira même jusqu'à 26 degrés du côté de Biarritz. En revanche, en début de journée, les températures pourront être assez fraîches et quelques petites gelées ne sont pas à exclure. À noter aussi le vent d'autant qui sera sensible et puis un peu de vent sur la façade ouest.
Sébastien Léas de Météo France. Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve après 19h.